Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Le sol, il faut l'avouer, jusque dans les années 50, nous nous en préoccupions peu. L'agriculture intensive, les pollutions aux nitrates et aux métaux lourds, des eaux de surface, nous ont fait prendre conscience de sa fragilité, de sa non-renouvelabilité, si je peux me permettre ces néologismes, de sa complexité et de l'étonnante vie qui dépend d'elle. Produire les aliments, réguler le cycle et la qualité de l'eau, accumuler du carbone, limiter l'effet de serre, recycler les matières organiques, entretenir la biodiversité ou encore fournir des matériaux pour la construction et l'industrie. Sur un thème aussi large que celui-ci, nous nous intéresserons au cours de cette émission au sol, espace vivant qui contribue à l'absorption de nos polluants organiques et qui fourmille de micro-organismes à cet effet, de l'agriculture biologique et de l'intérêt croissant que portent les consommateurs au label AB, et peut-être moins appétissant mais tout aussi intéressant, l'épandage qui suscite toujours des interrogations. Pour en parler avec nous, deux invités, Pierre Stengel et Jérôme Balédan. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pierre Stengel, pour vous présenter, vous êtes directeur scientifique à l'INRA, Environnement, Écosystèmes Cultivés Naturels. Jérôme Balédan, vous travaillez également à l'INRA, vous êtes chef de département adjoint Environnement et Agronomie, correspondant à l'Académie nationale d'agriculture, et puis donc, je le précise, chercheur au laboratoire géochimie des sols et des eaux à Aix-en-Provence, où vous travaillez sur la matière organique des sols. Vous avez dirigé tous les deux avec une troisième personne, Laurent Bruclair, l'ouvrage « Le sol » publié aux éditions Coué en 2009, ouvrage sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette émission, et ouvrage coordonné par trois autres personnes que nous citons ici, donc Martine Tercet, Denise Gray et Marc-Antoine Caillot. Commençons, si vous le voulez bien, par une définition du sol. Alors, je ne sais pas si Pierre Stengel ou Jérôme Balédan prendra la parole pour cette question, mais que définit-on par sol et depuis quand s'inquiète-t-on de sa bonne santé ? Pierre Stengel.
Oui, le sol auquel nous nous intéressons, puisque suivant les métiers et les sciences, on peut en avoir des définitions différentes, c'est la partie superficielle des roches qui est altérée par le climat et les organismes vivants. Ça a une épaisseur de quelques décimètres à quelques mètres, et sa particularité très importante, c'est d'être une interface entre l'atmosphère, la biosphère terrestre et la partie souterraine, que ce soit sa composante aquatique, les nappes phréatiques, donc ce qu'on appelle l'hydrosphère, et la géosphère, donc les roches, qui vont fournir au sol ces éléments constitutifs, et notamment les éléments qui vont contribuer à alimenter les végétaux.
Jérôme Balédan.
Oui, et c'est un milieu qui finalement n'est pas si bien connu, parce que c'est un milieu qui n'est pas ambiant pour l'homme, donc on le perçoit moins bien que d'autres. Alors qu'en fait, si on regarde le parallèle avec un autre milieu à côté qui est l'océan, on le perçoit bien, donc c'est l'ensemble du milieu et de tous les êtres vivants qui y sont. Et on pourrait dire que le sol est un parallèle de la surface continentale, à la fois cette couche, ce milieu et l'ensemble des organismes qui y vivent.
Alors depuis quand s'inquiète-t-on de sa bonne santé à ce sol ? Est-ce que c'est avec l'apparition du label AB, par exemple, Pierre Stengel ?
On s'y intéresse depuis que l'agriculture existe, et nos devanciers agronomes, y compris dans l'Antiquité, s'intéressaient déjà à la fertilité du sol. Bon, plus récemment, c'est vers le XVIe et le XVIIe siècle que des agronomes en France y sont intéressés. Et l'étude scientifique du sol a vraiment commencé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, en gros avec l'invention de la chimie. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à essayer de comprendre comment les éléments alimentaient les plantes, et qu'on a commencé à s'intéresser à la fois au rôle de support agricole de la production du sol en tant que tel, et plus tard à la façon dont les sols se répartissent à la surface de la Terre avec l'invention de la pédologie. Ça, c'est plutôt la fin du XIXe siècle, au moment où l'Europe s'est étendue sur des espaces inconnus et où il a fallu découvrir des sols nouveaux et essayer de comprendre pourquoi ils étaient différents fondamentalement suivant les climats et l'altitude.
Mais s'inquiéter de savoir si on utilise trop d'engrais ou trop de pesticides, cette question-là, elle est plus récente, non ?
Oui, la deuxième grande époque d'intérêt pour le sol, c'est la révolution agricole de l'après-guerre, où la question, ça a été d'optimiser la production, donc de fertiliser, d'amender les sols, de les irriguer, de les drainer. Donc ça, ça a été une grande époque d'investissement sur la connaissance des sols, notamment en Europe. Hein, il y a eu un très fort investissement à cette époque-là. Puis, ces problèmes étant peu ou prou réglés, il y a eu moindre intérêt et l'intérêt est revenu suite aux questions environnementales que vous évoquez, au processus de pollution des eaux, à la dégradation des sols eux-mêmes. Et donc, il y a eu un réinvestissement collectif limité en Europe. Hein. Il faut bien dire que la France est un des rares pays où on a entretenu une recherche très forte sur le sol, mais significatif et croissant ces derniers temps, parce que bien sûr, ces préoccupations sont fortes. Et elles sont fortes aussi au niveau mondial, puisque là, c'est la question de disponibilité du sol pour produire qui devient la question majeure.
Pardon, Jérôme Malédan, peut-être souhaitiez-vous rajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'on a quand même là, au début du XXIe siècle, vraiment une prise de conscience importante avec la demande alimentaire mondiale, dont on sent qu'elle devient énorme. Elle augmente plus vite que prévu. Et on se rend compte vraiment maintenant que la ressource en sol est limitée avec des forts risques, des risques vraiment très importants, qui sont un peu de deux types, c'est-à-dire le besoin de coloniser de nouvelles terres. Et on a des risques importants dans de nombreux pays du monde de reproduire des erreurs qui ont pu être faites, comme chez nous par exemple, au Néolithique, où il y a 2000 ans, on a déjà érodé beaucoup de sols en Europe, qui sont partis dans la Méditerranée. Donc on va avoir des risques importants de perdre les sols de la planète avec cette forte demande alimentaire. On va avoir aussi beaucoup de pays qui vont avoir un besoin de production agricole, qui n'ont pas une tradition importante d'agriculture et qui risquent de rencontrer des difficultés à bien préserver le sol, qui n'ont pas des concepts politique de durabilité très importante. Donc il y a un gros enjeu vraiment pour la planète à cause de cette forte demande alimentaire et énergétique maintenant.
Alors dans votre ouvrage Le Sol, donc paru aux éditions Coué, on comprend bien l'importance de préserver la biodiversité de micro-organismes, une microflore qui jusqu'à présent justement on pensait qu'il était intéressant de la supprimer parce qu'elle pouvait faire fondre les semis, provoquer des nécroses racinaires ou des maladies vasculaires des plantes. Or il semble que ces micro-organismes sont aussi, c'est comme les bactéries, hein. Il y a des bonnes, il y a des mauvais micro-organismes. Jérôme Malédan.
Oui, alors sur cet aspect-là, il faut avoir un peu d'abord une première connaissance de ce que sont ce qu'est la vie microbienne du sol. Et d'abord un peu des chiffres, c'est-à-dire qu'on prend seulement conscience maintenant, dans les années 2000, de l'énorme diversité qu'il y a dans les sols et de l'abondance des organismes. Deux exemples, il y a eu des programmes de recherche interlaboratoires qui ont été menés jusque 2008, là, qui se sont terminés récemment, qui ont déjà visé à quantifier la biodiversité microbienne des sols. Et les chiffres qui sont sortis de ces études sont des chiffres énormes, c'est-à-dire que sur une placette forestière de quelques mètres carrés, on se rend compte qu'on peut avoir de l'ordre de la centaine de milliers d'espèces différentes pour les bactéries, de l'ordre du millier d'espèces différentes pour les champignons. Alors ce sont des chiffres de diversité énormes, tellement énormes qu'il y a encore 10 ans, on n'était pas à même de pouvoir les sonder. C'est-à-dire que c'est seulement maintenant qu'on a des méthodes de biologie moléculaire avec des séquençages à haut débit qui permettent d'accéder à la diversité des génomes du sol qu'on se rend compte de cette diversité énorme. Et donc ça, c'est un préalable pour comprendre un petit peu cette diversité. Le nombre d'individus, bien sûr, est très important aussi. On peut avoir 1 milliard de bactéries dans 1 gramme de terre, des dizaines de mètres de filaments de champignons dans les sols. Donc il faut avoir en tête cette très grande diversité pour comprendre le monde du sol. Et un deuxième point, c'est qu'on connaît les organismes vivants à la surface, les animaux, les végétaux, on commence à bien les connaître. Mais dans le monde microbien, à chaque fois qu'on va sonder chercher des organismes, on se rend compte que si on en sort 100 au hasard, il y en a 90 qui seront inconnus. C'est-à-dire que c'est toujours un monde où on ne peut pas actuellement identifier encore tous les individus.
Alors ce monde-là, donc, on comprend qu'il est très important. En France, quand on fait des cultures, on utilise des désinfectants. Certains ne sont plus utilisés, hein, comme le bromure de méthyle, par exemple, qui est aujourd'hui interdit. Mais sur ces terrains sur lesquels on a utilisé des désinfectants, est-ce que ces microbes, toute cette vie microbienne, est-ce qu'elle réapparaît ou est-ce qu'elle est morte ? On a fait un terrain vide, quoi.
Je crois que la désinfection des sols ne se pratique plus, ou très peu, ou en tout cas pas en plein champ. Et au contraire, en fait, on commence à prendre conscience du fonctionnement écologique du sol et de la très grande importance que les organismes peuvent avoir les uns, des fortes interactions qu'il peut y avoir entre les organismes eux-mêmes. Et on se rend compte qu'il est peut-être plus facile de jouer sur ces relations entre organismes, de favoriser des organismes qui vont être antagonistes des organismes nuisibles ou qui nous gênent, que d'essayer d'éliminer sélectivement les organismes nuisibles. C'est une réflexion assez générale, c'est-à-dire que dans tous les écosystèmes microbiens complexes, il y a une relative stabilité des populations et une population unique, comme par exemple un pathogène des plantes, risque même parfois de se développer plus facilement dans un terrain vierge où il n'y aurait pas d'autres organismes, comme il arrive en médecine, par exemple, que des antibiotiques qui détruisent la flore naturelle permettent une flore invasive de s'installer, ou une flore pathogène. Donc on a cette stabilité, relative stabilité des communautés microbiennes, qui est un allié pour lutter contre les pathogènes.
Et aujourd'hui, des souches microbiennes sont-elles commercialisées, par exemple, pour améliorer la culture des sols?
Alors oui, on pourrait dire qu'il y a deux méthodes pour utiliser ces antagonismes. Ce serait d'inoculer directement des organismes qui sont antagonismes d'autres. C'est quelque chose qui se fait, mais qui est quand même assez difficile à maintenir dans la durée et en plein champ. Donc ça existe avec par exemple des pseudomonas qui vont être antagonistes de certains champignons pathogènes. Il y a des essais concluants qui ont été effectués. Mais on pense aussi beaucoup jouer sur des méthodes indirectes pour favoriser les organismes antagonistes des pathogènes. Il y a diverses méthodes. On peut en particulier jouer sur le type de plante qui va être installée dans le milieu et qui va pouvoir favoriser certains organismes aux dépens d'autres. Et on retrouve ici le bénéfice de certaines pratiques comme l'insertion de rotation des cultures qui permettent de lutter efficacement contre certains pathogènes. On découvre aussi le potentiel d'avoir des couvertures de végétation plurispécifiques. Donc on retrouve un certain nombre de techniques qui permettent de jouer indirectement sur les flores pathogènes en favorisant les antagonistes. Mais
vous regardez Pierre Saint-Gel pour avoir son aval.
Enfin, je veux dire que la question clé, c'est quelque part le retour à une agriculture diversifiée. Hein. Très souvent, lorsqu'on a des pullulations de pathogènes ou de ravageurs, c'est parce qu'on a une utilisation trop répétitive ou trop systématique et uniforme dans l'espace par un seul type de culture. Et c'est une des difficultés, c'est que bon, l'agriculture telle que nous la pratiquons, elle est adaptée au marché, à la spécialisation régionale. Et pour aller vers une agriculture utilisant davantage de mécanismes naturels de contrôle des pathogènes, il faudrait revenir à des rotations plus longues et plus diverses. Alors bien sûr, c'est difficilement compatible avec les exigences économiques des marchés. Donc c'est une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Comment rediversifier en maintenant la rentabilité d'agriculture qui sont devenues très spécialisées, très performantes, mais dans un domaine donné qui est celui où, compte tenu des conditions naturelles et de l'organisation économique du système, l'agriculture d'une région ou d'un pays a des avantages comparatifs au niveau mondial.
Les cultivateurs, mais aussi peut-être les jardiniers, utilisent bien sûr des engrais, parmi eux l'azote, le phosphore et le potassium. Jusqu'à quelle limite on peut les utiliser, puisqu'on connaît les effets positifs, mais sont-ils rentables à 100% ces engrais?
C'est une autre question, mais notamment à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questions sur le prix des engrais par rapport au prix des denrées agricoles. Mais ils sont efficaces et je dirais que c'est un des domaines où on sait gérer le niveau de fertilisation en limitant à un niveau tout à fait raisonnable les risques de pollution. Donc je ne dis pas qu'il y a rien à faire, et notamment il y a des questions relatives aux émissions de gaz à effet de serre par l'azote, par exemple. Mais en revanche, on sait limiter de façon très efficace, techniquement, les risques de pollution directe par les engrais. Alors ça ne veut pas dire que les techniques de gestion raisonnables et raisonnées des engrais sont adoptées par tous les agriculteurs. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de risque, parce que L'agriculture, c'est quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire que vous mettez une dose d'engrais en espérant tel rendement, s'il fait mauvais, vous ne l'aurez pas, et donc il y aura un résidu d'engrais dans le sol et des risques de pollution. Mais on sait, en gros, gérer cet aspect-là sans difficulté insurmontable. Donc le problème le plus lourd est pour l'instant plutôt celui de la protection phytosanitaire que celui de la fertilisation. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes de pollution qui sont liés à des apports excessifs, souvent liés à la combinaison entre l'élevage et l'agriculture. Bon, c'est le cas de la Bretagne où on fait de l'élevage très concentré et où on est amené à rendre au sol des éléments, de l'azote, du phosphore, qui sont en excès par rapport à ce que le sol peut absorber avec les risques de pollution qu'on connaît.
Alors en ce sens, est-ce que l'agriculture biologique, dont on parle de plus en plus, hein, il y a une véritable mode, un véritable engouement pour tout ce qui est issu de l'agriculture biologique, le label AB. D'ailleurs, je crois que 40% maintenant des Français consomment régulièrement des produits issus de l'agriculture biologique. Est-ce la solution pour moins de pollution et une meilleure alimentation? Pierre Stengel, je m'adresse à vous.
C'est une solution, mais c'est une solution qui aura du mal à dépasser le stade, disons minoritaire, pour ne pas dire marginal, où elle est actuellement. C'est-à-dire qu'on peut bien pratiquer l'agriculture biologique sur de petites surfaces pour avoir, et notamment sur des endroits qui seraient particulièrement sensibles aux pollutions, moins d'apports essentiellement de produits phytosanitaires, hein, parce que l'agriculture biologique n'empêche pas les risques de contamination par la fertilisation. La fertilisation organique ou minérale comporte l'une et l'autre des risques de pollution. Donc c'est surtout vis-à-vis des produits phytosanitaires. Donc de ce point de vue-là, elle est efficace puisque les produits qu'elle utilise sont beaucoup moins dangereux pour l'environnement que les produits de synthèse. En revanche, c'est au prix de deux choses très importantes. La première, une baisse des rendements qui est considérable. Hein, sur certaines cultures, c'est de l'ordre de 50%. Donc on peut difficilement imaginer qu'on pratique ça à l'échelle nationale sans que les prix se mettent à flamber de façon extraordinaire.
Vous voulez dire que ce n'est pas compatible avec l'augmentation de la population mondiale, par exemple ?
C'est surtout pas... Oui, bien sûr. Hein, si on imagine que toute l'agriculture se mette au biologique, toutes les agricultures intensives, notamment l'européenne, et qu'on admette une baisse de la production de l'ordre de 50%, l'impact sur les prix des denrées alimentaires serait considérable. Donc il y aurait un vrai problème. Le deuxième, c'est qu'on ne peut pratiquer durablement l'agriculture biologique que si on réassocie systématiquement l'élevage et la production végétale. Or, il y a des régions entières en France où l'élevage a disparu. Ça implique un bouleversement profond, des recours à de la main-d'œuvre supplémentaire et un changement complet d'occupation du territoire. Donc, le bouleversement est imaginable, mais il faut bien penser aussi qu'il a des conséquences sociales pour les agriculteurs et pour les consommateurs qui sont potentiellement très lourdes. Donc, dire que c'est la solution me paraît prématuré et assez audacieux.
Jérôme Balédan.
Oui, je vais pondérer un petit peu le propos de Pierre Stengel sur un point. Donc, bien sûr, l'apport de l'agriculture biologique sur la minimisation des phytosanitaires est très clair, mais aussi sur le recyclage des éléments. Elle est porteuse d'une philosophie qui est quand même assez intéressante. C'est que si je prends le cycle global d'un élément comme l'azote, on s'est rendu compte, en faisant l'ensemble du calcul de ce que l'homme introduit comme azote sur la planète, en particulier à partir du procédé de fabrication des engrais, à partir de l'azote de l'air, et qu'on compare ces chiffres de fabrication ou d'introduction d'azote dans les systèmes, l'azote est l'élément constitutif des protéines. En fait, il est destiné, in fine, à l'alimentation protéique humaine, hein, l'alimentation humaine. Et en fait, la proportion de l'azote qui a été apportée par l'homme dans le système, qui arrive à la bouche de l'homme, est plutôt de l'ordre de 20-25%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie de l'azote qui est introduit dans le système, qui est perdu, et que ces fuites, en fait, cette perte, en dehors de la perte économique, peut avoir quand même un certain nombre d'effets néfastes, peut conduire à ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire l'excès d'éléments nutritifs, en particulier azotés, dans les écosystèmes aquatiques, voire dans l'océan, et puis aussi à la perte d'un gaz à effet de serre important, qui est N2O. Donc c'est à l'origine de contamination. Donc on se rend compte, quand on voit ça, qu'il y a quand même un besoin d'augmenter le recyclage de cet élément, dans l'agriculture en particulier. C'est-à-dire, l'agriculture biologique est porteuse quand même de l'idée de pouvoir utiliser des éléments azote-phosphore, qui sont eux-mêmes, proviennent de sources organiques, et non pas directement des fertilisants, donc de participer au recyclage des éléments. des éléments qui peuvent provenir de produits résiduaires. Et donc, dans ce sens-là, le développement de ces méthodes d'utilisation de matières recyclées sont quand même globalement bénéfiques.
Juste avant de marquer une pause, je m'adresse à vous, Jérôme Balédon, que dans votre ouvrage, vous expliquez que le bio, c'était bien, mais qu'il fallait faire attention à l'appauvrissement des sols, notamment en phosphore.
Il est apparu que dans les systèmes en agriculture biologique, le sol est assez bien pourvu en carbone, en matière organique, en azote et en phosphore. Mais on se rend compte, en analysant plus finement les situations, qu'il y a certaines situations où il y a effectivement moins de phosphore et où le phosphore commence à devenir un élément limitant. Alors derrière ça, on se rend compte que la fertilisation de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest par le phosphore a été très développée depuis des décennies, à des niveaux tels que dans beaucoup d'endroits, il n'est même plus nécessaire d'apporter de phosphore pour avoir une croissance suffisante. On s'en est rendu compte il y a quelques années. Et que l'agriculture biologique, si elle met peu d'intrants en phosphore, peut vivre sur cette réserve-là et peut petit à petit l'épuiser. Et qu'il faut retrouver des sources de phosphore dans le sol. Mais je pense que Pierre veut compléter ce point.
Oui, je voudrais revenir sur l'idée de recyclage. Bien sûr, c'est un des points clés de notre fonctionnement agricole, pas seulement d'ailleurs, c'est bien de mieux recycler les éléments qu'on utilise et de réapporter de façon à ce que la consommation nette du système soit affaiblie et qu'on soit en permanence en train de retourner au milieu et donc au sol une partie importante de ce qu'on consomme. Et c'est particulièrement vrai sur le phosphore. Pourquoi ? Parce que si on pense à l'azote, alors si on cessait d'utiliser des engrais de synthèse, on sait qu'il y a des légumineuses qui fixent l'azote atmosphérique et qu'on peut maintenir un niveau de production, peut-être pas équivalent à celui que nous avons avec les engrais de synthèse, mais un niveau de production élevé en utilisant des légumineuses. En revanche, pour le phosphore, il n'y a pas de mécanisme pour le fabriquer. Donc le phosphore qui rentre dans le système, c'est du phosphore qu'on extrait de mines. Et que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture traditionnelle, c'est toujours des minerais de phosphore qu'on fait venir, suivant les cas transformés par l'industrie ou suivant les cas en agriculture biologique sous leur forme minérale naturelle. Mais dans les deux cas, on épuise un stock qui n'est pas indéfini. On sait que les stocks de phosphore disponibles au niveau de la planète nous assurent un fonctionnement agricole au rythme actuel pour 100-200 ans. On ne sait pas très bien, parce que la limite des réserves minérales, c'est toujours difficile à les déterminer. Mais on sait qu'elles ne sont pas inépuisables. Or, on veut mettre en valeur des sols, notamment des sols tropicaux, où le phosphore est le principal facteur limitant. Et donc, si on veut les valoriser, on sait qu'il va falloir y injecter davantage d'engrais phosphatés, sous une forme naturelle ou sous une forme transformée. Et donc, ça risque d'être au niveau planétaire et à terme, le facteur limitant majeur de la production agricole.
Je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans un court instant pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jérôme Balédan et de Pierre Stengel. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler d'épandage. Mais avant, j'aimerais qu'on aborde la question du lombric, le ver de terre, qui a aussi, semble-t-il, son rôle à jouer. Jérôme Balédan, peut-être pour commencer, sur l'importance du lombric.
Oui, alors on a parlé des micro-organismes du sol, mais la faune a une importance considérable aussi dans les sols. Pas tant par les flux de matière qu'elles transforment, mais par leur rôle d'ingénieur. On parle des ingénieurs du sol. Alors chez nous, les plus fréquents, c'est les lombriques, mais dans d'autres pays, ça peut être les termites, ça peut être les fourmis. Et en fait, ce sont eux qui brassent la matière. Et donc, ils ont un rôle très important, en particulier pour les propriétés physiques des sols. Donc, ils contribuent à agréger la terre, à lui donner une stabilité structurelle, qui permettent de lutter contre l'érosion, à augmenter la porosité, les réserves en eau, la circulation d'eau, l'aération. Donc, c'est des propriétés qui sont bien connues, qui sont importantes. Il faut peut-être se méfier sur le rôle des lombriques. On a l'impression, on leur prête toutes les vertus et d'avoir un rôle un peu manichéen. C'est qu'ils sont aussi parfois indicateurs de milieux qui ont des bonnes propriétés. C'est-à-dire ils sont présents parce qu'il y a beaucoup de matière organique qui est apportée dans le milieu et ce n'est pas forcément eux qui vont être à l'origine. Donc, ils peuvent être indicateurs de ces bonnes propriétés. Et effectivement, donc, dans des systèmes en agriculture intensive, on se rend compte que les populations lombriciennes sont beaucoup plus basses que dans des milieux prairiaux ou d'autres. Et on s'en inquiète. Et si on connaît un certain nombre de mécanismes qui contribuent à diminuer les populations de vers de terre, comme la diminution des quantités de matière organique, comme le travail du sol, le travail mécanique du sol, on connaît moins bien le rôle potentiel de certains toxiques ou de certains produits phytosanitaires sur ces populations-là qui sont importantes. Donc il y a encore de l'information à obtenir sur ces organismes qui sont effectivement très importants. Alors on a des projets de recherche qui quantifient assez systématiquement maintenant sur un réseau national de mesure et de suivi de la qualité des sols en France, des populations lombriciennes, pour mieux connaître leur abondance, leur fréquence, en dehors peut-être d'une vision qui parfois est un peu manichéenne, un peu tout blanc ou tout rose comme le ver de terre. Voilà, donc,
est-ce que de la même manière qu'il existait, je ne sais pas si ça continue, mais des élevages de coccinelles pour les pucerons, est-ce qu'il existe un élevage de lombrics pour augmenter la porosité dans certaines terres ?
À ma connaissance, non, ça a existé, mais de façon très, très marginale. Il faut bien dire que c'est un peu comme les microbes. Injecter des lombriques dans un milieu qui ne leur est pas nécessairement favorable, ça n'augmente pas durablement la population de lombriques. Donc si on veut l'augmenter, il vaut mieux souvent rajouter de la matière organique ou changer les techniques de travail du sol que d'élever des lombriques. En revanche, il y a eu des développements d'utilisation des lombriques plutôt pour traiter des produits organiques résiduels, notamment des boues de stations d'épuration et les composter. Ça a été utilisé dans certaines agglomérations, notamment d'Amérique du Sud. C'était notre collègue Boucher qui était à l'origine de ce travail-là. Bon, ça permet pas de développer des installations de très grande dimension, donc ça n'a pas pris une extension très grande, mais c'est un procédé qui existe toujours, avec derrière des idées éventuellement d'utiliser la biomasse de vers de terre pour alimenter des animaux ou d'autres usages. Notamment, il avait pensé alimenter des poulets ou des poissons, ce qui peut poser des problèmes parce que les vers de terre, ils ont aussi tendance à stocker des toxiques, notamment des métaux lourds. Donc, il y avait un peu antagonisme entre l'idée d'épuration et puis l'idée d'utiliser la biomasse.
Mais ce sont quand même.
Mais ça reste très marginal à ce stade. Hein. Ça reste très marginal.
En tout cas, on comprend dans votre ouvrage que selon les espèces de lombriques, eh bien, les influences ne sont pas les mêmes.
Oui, parce que les lombriques n'ont pas tous les mêmes habitudes de comportement vis-à-vis de la ressource alimentaire qu'ils utilisent, hein, qui sont les débris végétaux qui sont soit à la surface du sol, soit en profondeur. Et donc, il y en a qui mangent les résidus en surface, il y en a qui se promènent horizontalement, donc plutôt dans la couche superficielle. Et puis, il y en a qu'on appelle les anésiques, qui ont le bon goût de faire des allers-retours entre la profondeur où ils se réfugient dans une zone humide, bien tempérée, et puis la surface où ils viennent manger. Et ceux-là, ils ont un grand avantage, c'est qu'ils font des galeries verticales qui favorisent l'infiltration de l'eau, donc ça améliore l'infiltration en général et ça réduit le ruissellement.
Venons-en, si vous le voulez bien, aux épandages. En préparant cette émission, on parlait de la Bretagne, il y a quelque temps avec vous, Pierre Saint-Gel, et notamment des lisiers de porc, où en plus des problèmes de nitrate en Bretagne, il y a des problèmes aussi de cuivre et de zinc dans le sol qui provoquent des problèmes de toxicité et qui pourraient donc être provoqués à la fin du siècle. La question est alors la suivante, est-ce que les épandages sont un risque pour la population à court ou à moyen terme? Je sais que la question est récurrente, mais je me permets de vous la reposer. Pierre Saint-Gel, pour commencer.
C'est une question récurrente et évolutive, hein, puisque les premières questions relatives aux épandages étaient relatives aux pollutions par l'azote et par le phosphore. Les problèmes sont assez analogues finalement quand on considère des résidus organiques venant des villes, hein, des bouts de stations d'épuration, ou qu'on considère des résidus d'élevage. Et puis, avec l'évolution des méthodes d'alimentation des animaux, on a intégré dans leur alimentation du cuivre et du zinc qui ont des effets favorables à la fois sur leur croissance et leur résistance à certaines maladies. Et puis on a aussi, on ne le fait plus maintenant, au moins réglementairement, ajouter des antibiotiques, etc. Toutes choses dont on va retrouver des résidus dans les déchets animaux et qu'on va épandre sur les sols. Alors nous, on s'est particulièrement préoccupé, peut-être depuis plus longtemps, du cuivre et du zinc, et on s'est aperçu qu'effectivement, en épandant des lisiers, on augmentait la teneur, notamment en cuivre du sol, jusqu'à des niveaux qui pouvaient devenir toxiques pour les végétaux dans des durées qui ne sont pas infinies, de l'ordre de plus de quelques dizaines d'années. Mais donc, il y avait un véritable risque. À ça se sont ajoutés ensuite les antibiotiques. Et puis on continue, à mesure que nos capacités analytiques augmentent, à s'apercevoir que dans ces effluents d'élevage, de même que dans les bouts de stations d'épuration, on trouve un tas de choses qui peuvent être potentiellement nocives pour l'homme, qui sont des résidus médicamenteux divers. Bien sûr, il faut soigner les animaux et ça laisse des traces dans leur déjection, qui sont des hormones. Et tout cela pouvant avoir potentiellement des effets négatifs sur notre nourriture. Immédiatement lancer un message d'alarme catastrophique. Il est bien clair qu'il faut que nous soyons vigilants là-dessus, à la fois pour l'entretien des sols et surtout de façon plus immédiatement préoccupante pour la santé de nos concitoyens qui consomment les produits.
Mais alors, pardonnez-moi si la question vous paraît absurde, mais faut-il traiter ces boues avant de les épandre ?
Lorsqu'il s'agit de bouts de station d'épuration, on peut toujours imaginer que les procédés permettent d'épurer, encore que c'est extrêmement coûteux et quelquefois très difficile. Hein. Bon, par exemple, pour enlever les résidus de pesticides dans les bouts de station d'épuration, ou plutôt dans les eaux qu'on épure dans les stations, il faut faire des traitements au charbon actif, etc., qui sont extrêmement, extrêmement coûteux. Donc, et puis, il y a des molécules qui sont en très faible quantité et qui sont quasiment pas dégradées ou insuffisamment dégradées pour qu'on puisse dire à la fin, le produit est complètement propre. Donc, c'est sans doute plutôt en réglant par des procédés d'épuration à la fin qu'on arrivera à progresser. Donc, et ça peut être une vraie difficulté. On ne peut pas imaginer qu'on va supprimer les médicaments vétérinaires. Donc, comment faire ? D'abord, vérifier si, oui ou non, ils ont un effet nocif. On ne le sait pas, mais on sait simplement que ces médicaments sont présents dans l'environnement, présents dans les boues, et risquent par conséquent de contaminer à la fois l'eau et puis les aliments.
Alors, j'imagine qu'il y existe, bien sûr, des normes à respecter, ne serait-ce que sur le plan européen. Jérôme Balédan, au niveau de l'épandage ?
Oui, alors bon, il y a des normes qui ont déjà été établies depuis un certain temps, déjà sur les métaux lourds, hein, pour tenir compte de la quantité de métaux lourds qui était potentiellement présente dans les produits résiduaires. On a établi d'autres normes un peu plus récemment sur un certain nombre de toxiques, qui sont des toxiques rémanents, comme des HAP, comme des polychlorobiphényles, PCB. Enfin, un certain nombre de polluants rémanents, mais qui sont loin de représenter la totalité des produits qu'on peut trouver.
Et qui sont présents après de longues années, toujours, hein.
Oui, certains produits peuvent être rémanents pendant plusieurs dizaines d'années dans les sols. Hein, en particulier dans les sols, dans les sédiments aussi. Hein, c'est le cas des polychlorobiphényles, par exemple, qui étaient largement utilisés dans l'industrie chimique autrefois et qu'on trouve encore par-ci, par-là dans les composés. Donc il va y avoir encore un besoin de normalisation et d'amélioration. Comme disait Pierre Stengel, il va falloir travailler beaucoup sur la filière en amont de ces produits. Là, j'ai dit tout à l'heure, à propos du recyclage des éléments, qu'il était presque impératif d'essayer d'améliorer le recyclage de la matière. On a parlé du phosphore, de l'azote, du carbone. Et donc, pour conserver une innocuité des produits qui vont être recyclés, il faut travailler en amont. Et là, il faut remonter très loin. C'est-à-dire que sur des produits qui peuvent être des composts urbains ou des produits qui peuvent être des bouts de stations d'épuration, donc qui proviennent des eaux ou des composts de nos déchets à tous, l'innocuité dépendra de notre capacité aussi de trier à la base ces déchets. C'est-à-dire que chaque citoyen, quand il est concerné par le tri sélectif, il permet ou pas que le produit final du devenir de ses propres déchets puisse être épandu ou pas sur les terres.
C'est un problème clé vis-à-vis de la question du recyclage qu'on évoquait tout à l'heure. Si on se dit, dans l'avenir, qu'est-ce qui serait économe d'un point de vue environnemental ? On se dit que l'idée serait d'avoir la ville, un bassin d'alimentation et un recyclage aussi complet que possible de tout ce que consomme la ville, en partie dans les sols quand il s'agit de déchets organiques. Mais pour arriver à cela, sans risque fort de pollution et même à la limite de risque microbien, il faut arriver à une gestion de la qualité de ces produits à recycler qui soit extrêmement, extrêmement draconienne. Et évidemment, ça peut coûter cher. Donc là, on a une énorme question autour de ça. Comment faire des déchets ou des sous-produits qui soient de bonne qualité et réinjectables dans le milieu sans sans favoriser des risques toxiques pour les habitants, voire des risques épidémiques s'il s'agit de bactéries.
Mais les épandages, finalement, en vous écoutant, c'est pour se débarrasser de ces bouts dont on ne sait pas quoi faire, ou il y a réellement un potentiel fertilisant, enfin, est-ce que c'est réellement positif ou est-ce que c'est pour trouver une solution?
Il y a un aspect amendement organique. Il faut bien dire que les bouts de stations d'épuration dans le cycle des matières organiques, ça représente vraiment pas grand-chose, mais dans les zones où c'est utilisé, c'est un effet positif de ce point de vue-là. Et j'évoquais tout à l'heure le phosphore, c'est un des moyens de recycler efficacement le phosphore, par exemple. Et donc là, on aurait effectivement, et ça a une valeur de fertilisant en termes de phosphaté qui est tout à fait significative. Donc ça contribue à équilibrer ce bilan de phosphore qui est une préoccupation forte. Ça peut aussi apporter d'autres éléments nutritifs pour la plante qui sont importants, même s'ils ne sont pas forcément limitants en termes de disponibilité minière au niveau mondial. Donc on a intérêt à susciter cette valorisation de sous-produits qui sont d'intérêt pour l'agriculture, mais en même temps, on est très préoccupé de leur qualité. Alors sur les métaux lourds, il y a eu beaucoup de progrès, notamment parce que l'industrie métallurgique s'est souvent éloignée des villes, donc il y a moins de... Et puis qu'on a séparé les effluents industriels et les effluents urbains. Donc il y a eu beaucoup de progrès en ce domaine, mais il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Bah, par exemple, dans les bouts de stations d'épuration de Paris, on trouve du zinc parce que les toits parisiens sont en zinc et parce que les pneus des voitures laissent du zinc sur les routes. Bon, comment corriger ça? C'est extrêmement difficile parce qu'on voit bien que ça modifie tout un tas d'habitudes, de comportements ou de pratiques technologiques qui sont difficiles à modifier sans y perdre quelque part.
En tout cas, dans la limitation de cette pratique, il semble qu'en France, sur les terrains cultivés, 22% des terres justement ne disposent pas de l'épandage parce que pour des raisons X ou Y, c'est peut-être à risque ou trop compliqué.
Oui, enfin, il y a eu au moment de les décrets qui ont établi les règlements concernant les teneurs en polluants des boues, donc ce qu'évoquait tout à l'heure Jérôme, hein, métaux lourds, produits organiques persistants et en gros bactéries présentes, ont suscité une polémique très très forte entre la profession agricole et en gros l'État qui était promoteur de cette vision de recyclage par l'agriculture liée au fait qu'on systématisait les stations d'épuration et qu'on voulait fermer les décharges. Donc l'agriculture a résisté à ça à cause de ces inquiétudes concernant les pollutions, et dans certaines régions qui sont très sensibles à leur image en termes de qualité des produits, il y a eu de véritables refus. Une partie de ce problème s'est réglée par un fonds de garantie qui assure que les agriculteurs seront indemnisés en cas de problème. Et c'était un des objets du débat qui est très, très vif à cette époque-là. Et je dirais que la situation s'est un peu calmée. Mais bien sûr, là où on produit du vin de haute qualité ou des légumes ou des produits pour lesquels les consommateurs sont très sensibles à l'image de l'origine et à la qualité sanitaire, les agriculteurs sont assez normalement réticents.
Jérôme Balédan ?
Oui, sur cette question des polluants organiques, en particulier ceux qui sont émergents, qu'on peut trouver dans les boues, qui peuvent contaminer les milieux par ailleurs, en fait, on a un verrou important qui est de pouvoir mesurer réellement les quantités de ces produits. Et donc, c'est des produits qui sont en très faible quantité, en traces, qui sont actives à des doses très basses. Et pour l'instant, on a une information très fragmentaire sur l'occurrence de ces produits. Et si on voulait avoir plus d'informations, il y a une première chose importante, c'est finalement le coût de l'analyse, ne serait-ce que pour avoir un bilan sanitaire des milieux ou pour tester l'impact de certaines méthodes sur l'abattement, hein, c'est-à-dire la dégradation de ces produits. La mesure est quelque chose qui est assez limitant et qui n'est pas facile à écouter.
Il se pose la question de la transmission du prion de manière horizontale, c'est-à-dire une transmission qui se fait directement du sol à l'animal. Donc il s'ajouterait à cette pollution par antibiotiques ou des antibiotiques, des métaux lourds, également des risques de maladies. Et notamment la question se pose pour la tremblante ovine et le chronic wasting disease. Jérôme Balédan.
Oui, on peut en parler. C'est-à-dire qu'il y a des... Effectivement, donc après les épisodes de la maladie de la vache folle, on s'est inquiété du devenir de molécules de protéines, hein, comme le prion. Et donc, il y a des projets de recherche qui ont été menés pour savoir ce qu'ils devenaient dans les sols. Est-ce qu'ils étaient dégradés? Est-ce qu'ils disparaissaient? Est-ce qu'au contraire, ils étaient stockés là? Et donc, ces études ont abouti à démontrer qu'ils sont... pas complètement biodégradés, parce que souvent ils sont absorbés sur les particules des sols, les particules argileuses. Ils peuvent se trouver fixés là. Alors à la fois, ils peuvent être retenus et à la fois, ils peuvent être véhiculés si ces particules se déplacent. Donc on a effectivement un potentiel de transfert horizontal via la matière dans les sols, mais on n'a aucun établissement d'occurrence réelle de transmission par ce moyen.
Ah, il me semblait que c'était beaucoup plus établi que ça. Je ne pensais pas que c'était encore... On marchait encore sur les œufs.
Il y a eu très peu de connaissances vraiment certaines à cet égard-là. Il y a eu une manip fondatrice d'un collègue américain, si j'ai bonne mémoire, mais qui avait injecté du sol contaminé par le prion et qui avait montré qu'au bout de 3 ans, en injectant ça dans le cerveau d'un animal, on provoquait la maladie de la vache folle. Bien, c'est pas une forme de contamination qu'on risque de rencontrer dans la nature, mais c'est quand même à cause de ça qu'on s'est préoccupé de cette question-là. Il y avait d'autre part des indications qui sont difficiles à confirmer scientifiquement, suivant lesquels des animaux venant sur des parcelles où on avait enterré des animaux victimes de la tremblante avaient été contaminés de cette manière-là. Donc l'idée qu'il était possible qu'il y ait une contamination par le sol. Cela dit, on n'a pas de démonstration scientifique à cet égard-là. On a simplement constaté que des troupeaux avaient été malades suite à leur retour sur des lieux où on avait enterré des animaux malades.
Je vous propose de marquer une deuxième pause. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de notre émission. À tout de suite.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Académie vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademie.com.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Pierre Stengel et de Jérôme Balédan, dans cette troisième partie d'émission, plus courte que les deux premières parties, nous allons aborder la question de la France dans le domaine de l'appauvrissement des sols. Est-ce qu'elle est une bonne élève? A-t-elle encore des sols fertiles par rapport aux autres pays européens? Au contraire, est-ce qu'elle est en bas de l'échelle? Nous parlerons également de la santé des sols, des forêts, et puis nous parlerons de ces petites plantes qui permettent de dépolluer les sols. Mais tout d'abord, commençons par la situation en France. Jérôme Balédan ou Pierre Stengel, pour nous dresser un peu le panorama, la situation en France. Jérôme Balédan.
Oui, alors, appauvrissement, ça peut être l'appauvrissement, beaucoup de choses. Alors, pour d'abord les éléments nutritifs. Question importante. On pourrait dire que les sols agricoles, déjà, sur les éléments nutritifs, sont plutôt bien pourvus en France, en particulier par rapport à d'autres régions du monde où il y a des éléments qui manquent considérablement. Donc on a des sols qui sont plutôt bien pourvus. Quand on parle des sols forestiers, en revanche, là, on peut avoir des sols qui sont limitants en certain nombre d'éléments nutritifs, en particulier parce qu'il y a eu des processus d'acidification qui ont pu appauvrir les sols en certains éléments.
Acidification parce que des pluies acides avec l'industrie?
On a eu l'acidification. L'acidification des sols est un processus naturel, mais l'homme a pu contribuer à l'accentuer. Et en Europe de l'Ouest, ça a été en particulier par les apports de contaminants atmosphérique, donc l'azote dans l'atmosphère, le soufre qui viennent des charbons et des pétroles arrivent en acide nitrique, en acide sulfurique et contribuent à acidifier les milieux. Donc, et on a constaté une tendance à l'acidification des sols depuis les 20 ou 30 dernières années en Europe de l'Ouest. Et aussi, on a pu s'inquiéter donc, de la perte des éléments nutritifs, en particulier dans les sols forestiers où ils peuvent être limitants. Donc la gestion forestière fait éminemment appel pour sa durabilité, à la bonne balance qu'il peut y avoir entre l'apport des éléments nutritifs par l'altération des roches, ou pourquoi pas par fertilisation, et l'exportation par la production forestière.
Pierre Sengel, sur la question, peut-être avez-vous des éléments de comparaison par rapport à d'autres pays d'Europe ?
Oui, alors une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons pas de système d'observation de la qualité des sols depuis très longtemps.
Depuis combien de temps ?
Bien, on a démarré ça avec le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement en 2002, en gros. Donc on commence seulement à avoir une image de l'état des sols. Et il faudra avoir une deuxième campagne de mesures qu'on devrait commencer à partir de 2011 ou 2012 sans doute pour avoir une idée des tendances à la variation. Cela dit, en collectant l'ensemble des analyses qui sont faites par les agriculteurs, on a une base de données où on rassemble l'essentiel de ces données, on a davantage de recul et là on peut remonter à une quinzaine d'années. Et l'idée qu'on a notamment sur les matières organiques, c'est qu'elles continuent à... La teneur en matière organique continue à baisser, notamment dans les zones où on a retourné des prairies depuis quelques décennies, pas trop longtemps. Alors en revanche, dans les zones où les prairies ont été retournées plus précocement, dans les années 50-60, on a plutôt une tendance à la stabilisation, voire dans certains cas à une remontée. Mais c'est vrai que c'est une question assez difficile à interpréter. Par exemple, nos collègues anglais qui ont un observatoire de leur sol plus ancien que le nôtre et plus fin aussi, ont montré des diminutions de matière organique qu'ils ont beaucoup de mal à interpréter, que pour l'instant ils rapprochent du changement climatique, parce qu'ils constatent ça même là où il n'y a pas de changement d'occupation des sols, y compris sous des prairies ou sous des forêts. Donc il y a aussi l'effet de la variable climatique que pour l'instant en France nous sommes incapables d'appréhender et qui est quelque chose de très très important, puisque suivant que les sols stockent ou pas du carbone, les émissions vers l'atmosphère vont être très très profondément modifiées. Donc c'est une question d'une très très grande importance. Et puis, ils ont aussi observé des choses qui nous étonnent et qui les étonnent aussi, par exemple, des réaugmentations du pH, qu'ils ne comprennent pas très bien, même si on sait que, en gros, la densité de pluie acide a considérablement réduite depuis quelques décennies. On ne voit pas très très bien pourquoi les pH des sols se mettraient à augmenter. Donc ils ont une certaine avance sur nous qui nous permettent de nous poser des questions qu'ils soulèvent sans quelquefois avoir la réponse. Et progressons à mesure que sur de grandes étendues à l'échelle du continent, on aura une meilleure idée de la dynamique. Pour l'instant, on est loin de savoir expliquer et a fortiori prévoir ça, alors que ce serait très important.
Parlons des choses un peu plus positives. Parmi les méthodes, peut-être, pour remédier à la dépollution des sols, il y a la phytoremédiation, qui consiste en fait à ce que des plantes récupèrent des polluants, des métaux lourds en particulier, et... faire fi de tous ces métaux lourds. Jérôme Balédan, peut-être ?
Oui, donc on peut avoir différentes pollutions, organiques ou métalliques, par exemple. Alors là, la question est différente pour les deux, parce que les produits organiques, on les fait disparaître, on les biodégrade, alors que les produits métalliques sont conservatifs, ils ne peuvent pas disparaître du milieu. Alors sur les produits organiques, effectivement, il y a des méthodes. En général, on va parler de bioremédiation. Il peut y avoir une partie végétale, une partie biologique, pour favoriser la biodégradation de ces produits. Alors, ça se pratique sur un certain nombre de sites qui sont des sites où il y a des contaminations importantes par des produits d'origine chimique ou d'origine pétrolière. Et alors, plutôt que d'essayer d'excaver le sol, de brûler ou d'attaquer avec des réactifs chimiques les produits pour les faire disparaître, il y a des techniques qui consistent à favoriser la biodégradation. C'est encore un petit peu prospectif, mais ça fait en général partie d'un ensemble de mesures qui vont pouvoir contribuer à rendre la molécule plus facilement biodisponible. On peut jouer sur la physico-chimie du milieu en apportant, en changeant le pH par exemple. On peut jouer sur la végétation elle-même qui peut stimuler une activité biologique qui va dégrader. Et puis, alors, on peut faire des travaux même encore plus innovants. Il y a des choses comme des plantes, par exemple, qui vont libérer des produits tensioactifs. leurs racines vont libérer des produits tensioactifs qui vont rendre solubles des composés qui ne sont pas solubles. Et une fois qu'ils seront solubles, les micro-organismes pourront les biodégrader. Et là, on est plus dans le futur. Il y a des groupes qui travaillent là-dessus. Et on peut faire travailler en association des végétaux, des micro-organismes dont on peut stimuler la présence. On serait un peu dans un esprit d'ingénierie écologique où on essaye de favoriser une fonction de l'écosystème qui est la dégradation du produit.
Rendre également solubles des solvants ou des substances pharmaceutiques, des produits chimiques lourds au sens où on n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser à l'heure actuelle.
Voilà, pour l'instant, ça a été utilisé sur des pollutions ponctuelles assez importantes et majeures. Je pense que pour les pollutions diffuses, on n'en est pas encore là. Voilà.
On est quand même dans une dynamique innovante qui, pour l'instant, n'est pas véritablement appliquée en vraie grandeur. Sur les métaux, l'idée est d'exploiter les plantes hyperaccumulatrices, alors qu'ils sont capables de pomper des polluants, du zinc, du cadmium, en quantité phénoménale, sans s'intoxiquer. Le problème, c'est que ces plantes-là, en général, elles sont adaptées à des milieux très contraignants. Elles ne sont pas faites pour pousser vite et fort, mais pour résister à un milieu où les autres ne poussent pas. Donc, en général, elles produisent très peu de biomasse. Et donc, même si elles sont très concentrées, on a beaucoup de mal à leur faire décontaminer de grandes quantités de métaux polluants. Pour progresser, il faudrait bien sûr avoir un gros effort d'amélioration génétique de ces plantes, etc. Chose que personne ne fait parce que ça coûte très cher et les marchés sont très petits. Donc la perspective de ça, pour l'instant, est difficile à déterminer. Mais on voit bien que c'est un enjeu très fort parce que la réalité, c'est qu'on ne dépollue pas les sols. Quand on est vraiment dans un site très pollué et très dangereux, on le détruit. C'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. On va faire ça d'un point de vue thermique et on va fabriquer quelque chose qui ne ressemble plus du tout à un sol, qui est un matériau qu'on va utiliser pour faire de la construction. Ou bien on le passe à l'acide, suivant des procédés chimiques très brutaux, et à la fin, il n'y a plus de sol non plus. Donc ça coûte énormément. Et ça veut dire qu'à la fin, on n'a pas dépollué le sol, on a détruit le sol et on fait autre chose sur le site concerné. Donc c'est un vrai défi qui peut avoir une importance considérable. Si on pense par exemple à la question qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, qui est comment décontaminer la chlordécone qui pollue quelques milliers d'hectares aux Antilles, là on voit bien qu'il est hors de question de traiter le sol par des procédés chimiques. Et donc, le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est de la biorémédiation. Mais comment trouver des bactéries et un procédé éventuellement de couplage entre une plante et aux bactéries qui soit capable de détruire cette molécule qui résiste à peu près à tout? C'est un vrai travail de génie microbien qu'on va essayer de faire, mais avec une espérance de succès qu'on n'arrive pas à imaginer. Et pourtant, on sait que c'est un enjeu mondial de première importance.
Ainsi, on peut terminer cette émission sur les trois défis de la recherche. C'est les dernières pages de l'ouvrage Le Sol. Je crois que c'est vous, Pierre Stengel, oui, qui les avez rédigés, donc vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces trois grands défis.
Comme vous l'avez compris, c'est un sujet que je considère comme très, très important pour la recherche de l'INRA, mais plus globalement pour la recherche mondiale. C'est un enjeu très très fort. Donc on a abordé avec vous les questions des organismes vivants dans le sol, et je pense que comprendre l'écologie du sol, c'est vis-à-vis de l'ensemble de ces questions, que ce soit la production végétale ou les fonctions écologiques du sol, le stockage du carbone, la dépollution, c'est la question majeure et c'est une vraie frontière de science. Jérôme l'a dit, on commence seulement à découvrir ce qu'est la biologie du sol et comment elle fonctionne. Le deuxième point, et c'est sans doute une des difficultés des recherches sur le sol, c'est qu'elles sont souvent localisées, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance à s'occuper du sol de son jardin, pour caricaturer, mais en gros de ce qu'on connaît à proximité de chez soi, alors que la gestion des sols devient, à cause de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le défi alimentaire, le défi énergétique, l'effet de serre, une question mondiale, et qu'on doit se préoccuper de l'impact de ce qu'on fait de nos sols sur ce qu'on fera en Amazonie ou ce qu'on fera en Asie, suivant qu'on produit plus ou moins, suivant qu'on entretient plus ou moins de biodiversité, la question se posera, aura des répercussions sur ce qui se fait partout dans le monde. Donc je pense que vraiment il faut qu'on aborde ça de façon intégrée et qu'on ait plus d'actions internationales et planétaires pour avoir une vision de l'usage des terres au niveau mondial et des dégradations qui affectent les sols. Et puis le troisième point, c'est qu'on a trop tendance, entre spécialistes du sol, à parler de biologie, de physico-chimie, d'écologie. et souvent pas assez à relier ça à l'utilisation des terres par les agriculteurs et plus généralement par la société. Donc on voit bien que ça se traduit de façon évidente par des questions foncières. Hein. La question foncière reste une question tout à fait majeure au niveau planétaire, qu'on pense simplement à ce qui est en train de se passer où des États achètent des millions d'hectares dans d'autres États pour assurer leur alimentation. Ça, mais au niveau local, c'est aussi une vraie question. Donc c'est une évidence économique que la question foncière est cruciale. Mais plus généralement, l'usage que l'on fait des terres, et notamment la destruction des sols que l'on fait pour équiper nos infrastructures, hein, qui est le principal facteur, en France en tout cas, mais dans d'autres États aussi, c'est le principal facteur de dégradation des sols. Le premier facteur de dégradation des sols, c'est qu'on les détruit pour faire des autoroutes, des trains, des parkings, des usines. Donc on a besoin aussi de travailler avec les gens qui sont dans les sciences sociales, parce que c'est eux qui sont connaisseurs des moteurs qui font qu'on va utiliser le sol de telle ou telle manière, le détruire plus ou moins rapidement, etc. Donc c'est le sens de ce discours sur les trois grands défis, c'est en gros, intégrons à la fois au niveau de l'espace et au niveau des composantes diverses du problème, de l'écologie jusqu'à la sociologie ou à l'économie.
Jérôme Balédan, juste pour terminer cette émission.
J'ajouterai un quatrième défi qui est posé à la recherche, c'est celui de communiquer avec l'enseignement et finalement avec le public, qui est très important pour que tout le monde puisse être sensibilisé ou connaisse cet objet qu'est le sol. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir préparé cette émission.
Alors, le sol aux éditions Coué, qui est un dossier de l'INRA, hein, c'est ce que vous me précisiez en préparant cette émission, Jérôme Balédan, qui est très accessible justement au grand public qui s'intéresse à ces questions. Donc c'est un dossier qui est réalisé, je vous en parlais, Jérôme Balédan, comme pour moi je trouvais comme un ouvrage des SVT, mais c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus qu'un ouvrage des SVT, mais c'est un peu l'idée, très illustré, avec des encarts, des zooms, des très belles photos. Donc Le Sol aux éditions Coué, sous la direction de Pierre Stengel, de Jérôme Balédan et de Laurent Bruckler, qui n'était pas là mais qui était avec nous par la pensée, et puis donc coordonné également par Martine Tercet, Denise Graille et Marc-Antoine Caillot. Merci beaucoup, merci à tous les deux, et puis eh bien, j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci à vous.
Merci.